Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Parlons maintenant de la situation, cette guerre entre Israël et le Hamas. Quels sont les derniers éléments nouveaux? D'abord, il n'y aura pas de cessez-le-feu. On sait que plusieurs membres de la communauté internationale l'ont demandé. Dans les faits, Israël contribue encore à cet effort de guerre, c'est-à-dire à déployer des troupes sur le terrain, mobiliser des effectifs aux abords de la bande de Gaza pour une offensive terrestre qui n'est pas encore déclenchée, mais qui devrait l'être très bientôt. Et ce qu'on peut comprendre de la stratégie d'Israël depuis vendredi, c'est de dire aux Palestiniens qui se trouvent donc dans le sud, dans le nord plutôt, et de se déplacer vers le sud. Et quand vous regardez l'ensemble des Palestiniens qui ont bougé depuis plus d'une semaine, c'est 1 million. C'est grosso modo la moitié de la population qui est en déplacement. Et Israël a cette pression de ne pas frapper sur des civils. Et ce qui est clair, c'est que les gestes barbares posés par le Hamas ont placé Israël en état de choc. Le nombre de victimes, le fait que les systèmes de sécurité se sont effondrés et ont permis l'invasion du territoire et des massacres dans des kibboutz, et chaque jour, l'horreur se précise, on peut comprendre le niveau d'agressivité des Israéliens dans un contexte comme celui-là. Et de l'autre côté, vous avez les civils, les Palestiniens, population jeune avec des enfants, des gens qui se retrouvent à l'hôpital dans un contexte d'un manque d'équipements médicaux, de médicaments tout court, d'eau, de nourriture. Et il y avait une rumeur qui voulait ce matin qu'il y a un corridor qui s'ouvre du côté de l'Égypte. C'est pas encore confirmé, pour permettre des envois humanitaires. Et plusieurs groupes lèvent la main, des organisations internationales qui rappellent qu'il y a quoi 2,4 millions d'habitants sur un territoire de 362 kilomètres carrés et que pendant que Israël prépare une offensive majeure, on n'arrive pas à avoir de l'eau. Quand vous avez des Palestiniens qui disent « j'ai le choix entre boire de l'eau ou prendre ma douche », il n'y a pas de nourriture, on est dans un contexte de pénurie. Et on espère que ces pressions internationales vont permettre peut-être pas de fournir du pétrole, parce que du côté israélien, on voit ça comme étant une façon de nourrir l'arsenal de guerre du Hamas. Donc, ça demeure extrêmement tendu et faut aussi regarder ce qui se passe du côté du Liban. Le Hezbollah et Israël, le ton monte, la violence s'est accrue et il y a des tirs de part et d'autre qui touchent le sol avec un certain nombre de blessés. Mais on peut dire ce matin qu'il n'y a pas véritablement d'entente. Il y a à peu près, même juste dans la journée de dimanche, une centaine de cibles qui ont été touchées dans Gaza. Du côté du Hamas, il y a également des roquettes qui ont été lancées tout près de Tel Aviv. Et officiellement, à Gaza, on est à 2670 morts et blessés. Et probablement tout autant du côté israélien. Donc, c'est vraiment un portrait, on le sent, avec beaucoup d'anxiété. L'ambassadeur américain en Israël qui répète depuis très tôt ce matin que la frontière va rouvrir, qu'on aura un corridor avec l'Égypte, mais ça semble pas être le cas. Et disons qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de pression internationale. L'image qu'on a, c'est que Israël met évidemment beaucoup de pression, mais va laisser les Palestiniens bouger, se déplacer. On vous dit de vous tasser, tassez-vous. Et on donne plus de temps. Ça a commencé par un échéancier de 24 heures, espèce d'ultimatum après ça de 48 heures. Et là, c'est on comprend aussi une stratégie militaire de pression pour créer cette espèce de sentiment d'urgence de se déplacer. Beaucoup aussi craignent de ne plus jamais retourner chez eux. Alors, ça fait pas mal le point sur la situation ce matin. Maintenant, on va regarder des éléments de santé. Le Journal de Montréal nous rapporte une étude de la santé publique concernant les trottoirs, stationnements et autres lieux publics de Montréal de 2016 à 2020. Donc, c'était jusqu'au début de la pandémie, là. Il y a eu 14 000 chutes. Plus de la moitié ont mené à l'hôpital. Ces accidents touchent fortement les personnes de 50 ans et plus, selon la santé publique de Montréal. Et ce sont les informations, les chiffres, les données dont on dispose. Mais on le sait tous que les trottoirs de Montréal sont rarement bien entretenus, sont glissants, que les chutes causent des blessures qui peuvent être sérieuses. Et avec les phénomènes qu'on observe de gel et de dégel, ben ça arrive fréquemment. Donc, c'est clair que l'hiver qui s'amorce, on aura des enjeux de ce côté-là. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, toujours dans le Journal de Montréal, ça concerne l'anxiété et les médicaments. Les jeunes Québécois sont toujours plus anxieux et se tournent vers les antidépresseurs pour combattre l'anxiété. Donc, le nombre de jeunes de 17 ans et moins à qui on prescrit des médicaments contre l'anxiété a continué d'augmenter en 2022. Ils sont désormais près de 8200, une hausse de 10% par rapport à l'an dernier. Puis là, il faut faire attention entre le nombre de patients, le nombre d'ordonnances. Mais la plupart des médecins ne sont pas étonnés. Ce sont des jeunes qui souffrent, qui ont des enjeux, qui angoissent, le stress d'aller à l'école, puis on a vu à quel point dans certains cas il peut y avoir de la violence à l'école, puis du harcèlement. Et souvent, la médication, pour le médecin traitant, c'est comme le dernier recours. C'est-à-dire que t'as beau proposer d'autres formes de méditation, de relaxation, de détente pour chasser l'anxiété, ben ça marche pas tout le temps. Donc, il y a une hausse quand même importante de consommation de médicaments. L'autre chose, c'est ce matin publié dans Le Soleil, où on apprend que, grosso modo, 20% des visites à l'urgence sont faites par à peu près 1% des Québécois. Donc, des gens plus malades, des gens qui ont des maladies chroniques, des gens qui souffrent, difficile à identifier le problème, le diagnostic, et accaparent 20% des ressources à l'urgence. Alors, ils arrivent, on les soigne, on tente de les soigner, de les stabiliser, ils ressortent, ils reviennent. Et c'est comme ça, c'est une étude qui a été faite par une professeure de l'Université de Sherbrooke. Ce qui me fait dire également que on va surveiller les prochaines semaines avec la mise à jour financière du ministre Éric Girard. Je sais pas si vous êtes dans ce milieu de la santé, mais on entend toutes sortes d'affaires. Et s'il y a une chose que je déteste, ce sont les mots de camouflage. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, un mot de camouflage? C'est que on veut optimiser les dépenses en santé. Tu sais, ça veut dire quoi, ça, optimiser? Ça, c'est un bon mot, un beau mot, pour permettre aux politiques, aux ministres, de dire « moi, je coupe pas d'un service ». Si vous avez des services actuellement fournis par l'État, je ne couperai pas vos services. Parce que là, il paraît qu'il y a un manque de 1 milliard. On n'est pas capable de se le faire confirmer. Ça a l'air qu'il faut attendre que M. Girard ait terminé ses calculs. Donc, optimiser, ça veut dire, je coupe pas tes services, mais j'en ajoute pas. Donc, des gens qui sont en attente de services en auront peut-être pas ou vont continuer à attendre. Des chirurgies, peut-être que la liste va continuer de s'allonger. Des gens qui sont à l'hôpital, mais qui devraient être dans une ressource autre, à domicile avec des soins, peut-être qu'on va les garder à l'hôpital, parce que de toute façon, il faut payer pour le lit. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'à l'époque de M. Couillard et du ministre Laitao, on parlait d'austérité. Puis là, ça a marqué le Parti libéral, ça. Le régime de l'austérité, des coupures en éducation et en santé. Là, la CAQ, ils sont pas fous quand même. Alors, ça, c'est un mot à proscrire. Donc, on parle d'optimiser, d'être meilleur avec l'argent qu'on a. On veut bien, mais c'est pas ça qu'on entend sur le terrain. L'optimisation passe par une gestion plus serrée, par des ressources qui sont retenues par les six pour être capables d'équilibrer le budget. Paraît-il que c'est ça qui se passe. On verra pour la suite des choses. Et puisqu'on parle de politique, ben, les libéraux se sont réunis en fin de semaine. On peut pas dire qu'ils sont ben, ben chanceux. D'abord, le Parti libéral fait penser à une entreprise qui a eu du succès pendant des années, qui avait une clientèle fidèle, qui lui a permis d'être au pouvoir ou dans une opposition costaude là, pendant des années. Et puis, cette clientèle-là s'est effacée. Et là, le Parti libéral se cherche, on a vu le document d'orientation. En fin de semaine, là, le débat, c'est à quel moment allons-nous voter pour un chef? Puis là, on sent les tensions avec les jeunes libéraux qui veulent plus entendre parler du passé. Je voyais le fils de Jean Charest qui disait « Arrêtez de nous achaler avec les scandales de corruption puis de finances, puis de... c'est du passé. » C'est sûr qu'ils sont tannés d'entendre parler de ça. Et retournons, en fait, ayons comme priorité l'avenir. Puis l'avenir, c'est un chef en 2025. Alors, c'est un parti qui se cherche, qui cherche un chef, qui en a pas. Personne vraiment lève la main. Pour diriger quel type de formation politique? C'est pas un repositionnement, disons, simple. En quoi le Parti libéral du Québec va se démarquer de la CAQ, à part d'être fédéraliste, puis de Québec solidaire et du Parti québécois? OK, ils sont fédéralistes, mais après ça, sur des questions d'environnement, sur des questions d'éducation, sur des questions d'affaires, on a l'impression qu'ils se cherchent. Et pour paraphraser l'ex-ministre Lucie Charlebois, qui est un peu découragée de la tournure du débat en fin de semaine, elle a dit tout simplement « Let's go la gang », en voulant dire « On va se réveiller parce que là, on va rentrer dans le mur ». On fait le tour des autres nouvelles. D'abord, vous avez peut-être vu cette enquête concernant la conduite automobile des Québécois. On va y revenir ce matin un peu plus tard dans l'émission. Mais il y a un constat qui est fait, c'est que le bilan routier s'alourdit. On a beaucoup parlé des piétons, mais le comportement délinquant des Québécois est, disons, très clair. Je pense que le chiffre, c'est tu peux commettre à peu près 700 infractions, puis là, ça inclut les infractions mineures là, au Code de la route, avant d'avoir un ticket. Québec n'est pas pressé de toucher à la loi concernant l'alcool au volant. Et je comprends que la ministre Guilbeault a un plan là, qu'elle va finir par annoncer, un déploiement, entre autres, de radars. Mais ça va au-delà des mesures de surveillance et de répression. Je ne sais pas, il y a une prise de conscience à faire. Puis de voir le comportement des gens sur les routes et en ville, des gens, puis des cas d'agressivité, puis d'anxiété, puis des gens qui capotent. Ou encore le phénomène d'espèce de bulle, de la personne qui oublie que quand tu arrêtes ton véhicule dans le milieu d'une rue, ben t'empêches la circulation de se faire, t'impatientes du monde. Tu sais, c'est le je m'en foutisme au maximum. Et aussi des gens imprudents. C'est combien on croise de piétons qui traversent la rue à un endroit dangereux. Je comprends que c'est aux automobilistes et aux camionneurs de faire attention, mais quand même. Et on le voit, toutes les études montrent que plusieurs se mettent en danger quand ils se déplacent à pied, en vélo. Et même en auto, il y a des comportements qu'on croyait choses du passé. On va y revenir également tantôt. Et puis, on revient aussi dans la presse ce matin sur la loi québécoise contre l'obsolescence programmée. C'est majeur, là, et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'obsolescence programmée, là, c'est d'acheter un produit qui est programmé pour péter assez vite. En résumé, là, et être bien difficile à réparer, où le coût de la réparation va vous paraître tellement élevé que ça vaut même pas la peine de le faire. La bonne nouvelle dans tout ce qui a été annoncé, c'est que là, votre garagiste du coin aura accès à la technologie pour être capable de réparer votre voiture. Et on sait maintenant avec l'informatique, les technologies plus sophistiquées, ben ça prend l'accès comme ça à des appareils pour lire les problèmes et corriger les problèmes. Donc, il y a beaucoup de dispositions dans la loi qui concernent l'industrie automobile. C'est quand même une percée, ça va prendre un certain temps. Et l'autre réalité, pour ce qui est des appareils puis l'obligation des compagnies à fournir les pièces et tout ça, il y a un enjeu de formation de main-d'œuvre. Les gens qui veulent devenir réparateurs de grille-pain puis d'appareils électroménagers, là, il y en a de moins en moins. Et est-ce qu'on va être capable d'avoir la main-d'œuvre, puis surtout que ça soit rentable? Est-ce que je fais réparer mon micro-ondes ou ben donc je m'en achète un autre? Et on le sait tous que ce sont des appareils qui sont conçus pour, vivre le moins longtemps possible. Et puis également, je termine avec quelques nouvelles ce matin. On a appris aux États-Unis que la chaîne de pharmacie, là, c'est une firme, pas une firme, mais une chaîne géante, Rite Aid, se place en protection de la faillite suite à une baisse des ventes et surtout après des poursuites pour des prescriptions. Et là, on parle de milliers de poursuites, des prescriptions illégales pour des antidouleurs, pour des opioïdes. Rite Aid, là, c'est majeur. C'est comme Pharmaprix, c'est comme Jean Coutu. C'est un gros, gros joueur de l'industrie et qui, là, se trouve en difficulté financière. Et puis, je termine. On a parlé de Guy Latraverse. On a aussi appris en fin de semaine le décès de Suzanne Somers, 76 ans, qui jouait dans la série très populaire Three's Company. Alors, deux filles qui partageaient un appartement avec un gars, et c'était un peu révolutionnaire dans les années 70. Et elle avait quitté la série. Pourquoi? Parce qu'elle demandait l'équité salariale. Là, je vous parle des années 70, là. Elle dit, mon partenaire masculin fait beaucoup d'argent et moi, j'ai à peu près le tiers de son revenu. Puis c'est pas vrai que je vais continuer comme ça. Ils ont dit très bien, t'es viré. Et elle a perdu son rôle dans cette série. Elle s'est reprise, elle a écrit 27 livres, 14 best-sellers sur la condition physique, sur le vieillissement. Elle a vendu des produits, elle est devenue multimillionnaire. Puis il y a même des médecins qui contestaient un peu son approche, là, mais quand même. Alors, cette femme-là, qui avait l'air de la blonde un peu niaiseuse dans la série, était une femme d'affaires avertie, qui était une des premières, c'est une pionnière, là, à dire, non, c'est pas vrai qu'il va faire trois fois plus d'argent. Je mérite l'équivalent. Puis les producteurs, à ce moment-là, l'avaient congédié.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Québec a précisé son plan à la fin de la semaine dernière concernant la facture pour les frais de scolarité des étudiants du reste du Canada, donc des autres provinces et des étudiants étrangers, ce qui a amené une levée de boucliers, on l'a vu, des universités anglophones notamment. Quel est l'objectif? Freiner le déclin du français ou aller chercher plus d'argent? Pascal Derry, la ministre de l'Enseignement supérieur. Madame Derry, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
C'est quoi l'objectif? C'est le français ou l'argent?
Alors, l'objectif, c'est vraiment d'aller s'attaquer au déséquilibre financier qui existe parce qu'il y a eu déréglementation. Donc, c'est une politique qui a été mise sur pied en 2018, qu'on a déployée parce qu'elle a été mise sur pied bien avant qu'on arrive. Et on a déployé cette politique-là de la déréglementation. Ce que ça veut dire, c'est que les établissements d'enseignement supérieur, toutes les universités, tant anglophones que francophones, avaient la possibilité de charger ce qu'elles voulaient. Il n'y avait plus de plafond, ils étaient déréglementés, ça ne coûtait plus rien au ministère de l'Enseignement supérieur et donc on pouvait aller chercher les montants qu'on voulait auprès des étudiants internationaux. Ce que ça a créé, cette politique de déréglementation au cours des dernières années, c'est un déséquilibre important, considérable même, financier, entre le réseau anglophone et francophone. Donc, ma responsabilité en tant que ministre de l'Enseignement supérieur, parce que c'est quand même un système public, c'est l'État québécois qui finance en grande partie ce système-là, je me dois de rétablir un certain équilibre financier. Et c'est
OK,
ce que
mais
je fais.
Et là, j'essaie de voir, là. C'est une question linguistique aussi, là. C'est pas juste une question d'équilibre financier ou de rééquilibrage financier.
Ben, c'est une question aussi d'équilibre linguistique. On est quand même la seule nation francophone et les mesures qu'on a mis de l'avant, pas seulement cette mesure-là. Il y a des mesures qui ont été mises de l'avant au cours des derniers mois par ma collègue Christine Fréchette avec le PEC diplômé où on va de plus en plus attirer des étudiants francophones. Le but aussi, c'est de faire augmenter le nombre d'effectifs d'étudiants francophones dans les établissements francophones également.
Donc, okay. Mais je vais prendre des exemples pour que les gens nous suivent, là. Pour ce qui est des cégeps, pour commencer, quelqu'un qui viendrait de l'étranger, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même pour certaines techniques, là, suivre des cours au cégep. Ils s'inscrivent dans un cégep anglophone. Est-ce qu'ils sont pénalisés? Est-ce qu'ils vont payer plus cher?
Les mesures, pour l'instant, ne visent pas le collégial. On parle du tout. Le collégial est vraiment exclu de
tout
ça. Parce
que le collégial roule quand même beaucoup avec des étudiants étrangers. Donc, ça les touche pas.
Non. On parle vraiment du réseau universitaire. La politique qui existe actuellement vise uniquement le réseau universitaire, tant anglophone que francophone.
OK.
Le montant forfaitaire qu'on va aller chercher, les mesures qu'on met de l'avant, c'est pour les deux réseaux. C'est pour l'ensemble du réseau.
OK. Un étudiant qui arrive de l'étranger, qui s'inscrit à l'université McGill, par exemple. Ça va lui coûter combien?
Alors, pour l'instant, c'est ça, ça varie. Comme c'est déréglementé, ces étudiants-là, c'est les établissements qui choisissent, de par le programme dans lequel ils rentrent, ce qu'ils vont charger à l'étudiant international. En moyenne, ce qu'on charge à un étudiant étranger actuellement, c'est entre 22 et 25 000, je vous dirais, entre 22 et 26 000.
Et qu'est-ce que ça va lui coûter une fois votre réforme faite?
Mais justement, là, maintenant, ça va rien changer pour l'étudiant étranger. On vient mettre un prix plancher de 20 000 $ donc ça pénalise personne.
C'est-à-dire un étudiant, juste qu'on se comprenne, un étudiant qui arrive, je sais pas moi, d'Europe, puis là, j'oublie la France, la Belgique, là, mais qui arrive d'Europe, qui va à l'université McGill parce qu'il veut apprendre l'anglais, ça coûtera pas plus cher que maintenant.
Ben, le prix plancher va être fixé à 20 000 et là, les établissements auront le droit d'aller charger ce qu'ils veulent. Je permets encore aux établissements francophones et anglophones d'aller chercher des revenus discrétionnaires, des revenus additionnels. Donc, nous, on a mis un prix plancher pour que je sois capable d'aller récupérer un certain montant forfaitaire par étudiant, approximativement un 3 000 $ par étudiant étranger, pour qu'on soit capable d'avoir un certain levier financier pour qu'on s'attaque au déséquilibre actuel.
Je comprends, mais en même temps, c'est compliqué. Vous dites que les étudiants étrangers, dans le fond, ça ne changera pas grand-chose dans leur vie.
Non, la politique pour les étudiants étrangers, on est encore dans la marge. Okay. Ce qu'on leur charge actuellement,
c'est en moyenne... Qu'est-ce qui m'inciterait à aller à l'Université de Montréal plutôt que l'Université McGill si j'arrive de l'étranger?
Ben, c'est clair qu'on va mettre des mesures en place, comme je vous parlais tantôt du PEC diplômé. Le PEC diplômé, c'est un programme qui va permettre aux étudiants étrangers francophones de venir ici puis d'avoir accès à la résidence permanente par la suite. Donc, il y a vraiment des incitatifs pour qu'on soit capable d'aller chercher davantage d'étudiants étrangers francophones pour qu'on fasse augmenter le nombre d'effectifs dans nos établissements
francophones. Mais des étudiants francophones, parisiens qui viendraient étudier à McGill, ils parlent français, mais ils étudient à McGill. Est-ce qu'ils vont avoir droit à ce privilège-là aussi?
Ils seront pas pénalisés du tout. Alors, il y a des exceptions, justement, à ces mesures qu'on a mis en place. Pour ce qui est des étudiants français, belges ou suisses, ceux qui ont déjà accès aux établissements d'enseignement supérieur anglophones ou francophones, vont continuer à avoir accès aux établissements anglophones. Les Belges et les Français, qui sont dans des ententes bilatérales, des ententes internationales, qui n'ont pas été renouvelées, c'est statu quo pour l'instant, parce que ces étudiants-là... Comme je le dis, ils sont dans des ententes actuellement qui ne sont pas renouvelées. On ne touchera pas à ces ententes-là. Ils vont avoir le droit, puis ils vont continuer à avoir le droit, même si les ententes sont renouvelées ou changées. Ces étudiants-là vont pouvoir continuer à aller au sein des établissements anglophones.
OK, là, peut-être je vais résumer mal, mais j'ai l'impression qu'à part les gens de l'Alberta puis les gens de la Colombie-Britannique, ça touche pas grand monde, votre affaire.
Absolument. Ça touche, je vous dirais, les étudiants canadiens surtout.
Seulement.
C'est-à-dire, ben, surtout, puis les étudiants étrangers, on va quand même venir chercher un montant forfaitaire. Il y a quand même plusieurs dizaines de millions de dollars qu'on va récupérer par le montant forfaitaire qu'on va être capable de récupérer chez les internationaux. Mais ce qui est important de savoir, c'est que la mesure pour les étudiants canadiens, je sais que ça va avoir un impact, c'est clair que ça va avoir un impact, mais la question qu'il faut se poser, M. Arcan, pourquoi est-ce que l'État québécois financerait de manière indéfinie, donc indéfiniment, des étudiants canadiens qui viennent chez nous à des tarifs privilégiés, puis qui quittent après. Donc, ils viennent profiter de formations qui nous coûtent à nous extrêmement cher.
Faites-moi un parallèle, si vous avez les chiffres, entre un étudiant québécois qui irait étudier, par exemple, à Toronto, qui irait étudier en Colombie-Britannique, par rapport à quelqu'un de la Colombie-Britannique qui vient étudier ici.
Alors, un étudiant québécois qui va à l'extérieur, ailleurs au pays, ça va toujours lui coûter plus cher, peu importe le programme, peu importe la province, peu importe la formation. Parce qu'ici, au Québec, le droit de scolarité d'un Québécois, c'est à 3 000 à peu près, 2881. Mmh. C'est ça le chiffre qu'on a. Fait que c'est sûr que les droits de scolarité de base, et je prends l'exemple de l'Université de Toronto, les droits de scolarité varient à l'Université de Toronto entre 6 000 et 37 38 000. Ça va même jusqu'à 40 000. Donc, l'écart est tellement énorme. Un étudiant québécois qui va en Ontario va forcément déjà payer plus cher. Maintenant, il y a quand même une certaine forme de réciprocité. Il y a un tarif local en Ontario, puis partout dans les autres provinces, vous avez un tarif local, vous avez un tarif canadien et vous avez un tarif international. On fait pareil, on va avoir un tarif local pour nos étudiants québécois qui bougent pas. On va avoir un tarif canadien qui, lui, bouge et bouge de manière substantielle. On l'a fixé à 17 000. La raison pour laquelle on le fixe à 17 000, c'est pas pour leur dire ne venez plus ici. C'est parce que c'est ce que ça coûte en moyenne à l'État québécois.
Mais pourquoi je viendrais ici si ça me coûtait 7, 8, 9 puis que ça m'en coûte 17?
Ben, il y a
peut-être pas de raison de, à part des programmes précis, peut-être pas vraiment de raison de venir ici.
Ben, il y a des programmes qui vont écoper. C'est sûr qu'il y a des programmes, vu que l'écart est tellement important dans les droits de scolarité en Ontario et ailleurs, c'est sûr qu'il y a des programmes où il y a des gens qui vont dire, ben, probablement que je vais rester dans ma province, j'irai pas étudier. Mais il y en a d'autres qui vont probablement continuer à venir. Il y a des programmes qui coûtent beaucoup plus cher.
Et en quoi tout ça va aider le français?
Ben, pour moi, c'est d'avoir un certain levier financier d'abord pour être capable de renforcer les universités francophones qui, au cours des dernières années, ont vraiment subi ce déséquilibre financier. Donc, pour moi, c'est important d'aller corriger ce déséquilibre-là.
Mais si j'écoute les recteurs d'université, là, ce que vous offrez comme récupération, c'est pas énorme par rapport à leurs besoins, là.
Ben, écoutez, quand même, on parle juste pour les étudiants canadiens. Ça nous coûte à peu près 200 millions par année. On va pas récupérer le 200 millions parce que je ne touche pas au cycle supérieur. Je ne touche pas au deuxième cycle et troisième cycle de recherche. Donc, quand on me dit ça va freiner la pénurie de main-d'œuvre et tout, on touche pas à ces cycles-là. Puis la pénurie, les étudiants canadiens viennent chez
nous. Parce que, sérieusement, Mme Derry, ce que j'essaie de comprendre, là, c'est que ça a pas l'air à toucher grand monde au final, avec toutes les exceptions puis toutes les catégories. Je suis pas convaincu que c'est un grand effet pour protéger le français. C'est comme, ça a l'air d'un show pour changer l'opinion publique, pour distraire l'opinion publique.
Non, moi, je pense qu'il faut s'attaquer vraiment à ce déséquilibre-là, surtout en termes d'études canadiennes. Vous savez, les études en Ontario, en médecine, je vous donne un exemple, ça coûte à peu près 23 000 pour un étudiant ontarien. En dentisterie, ça coûte 37 000. En pharmacie, ça coûte 18 000. Et les tarifs sont extrêmement élevés. Ces gens-là viennent ici, bénéficient d'un tarif de 8 992. Pour peu importe la formation, nous, ça nous coûte beaucoup plus cher parce qu'on paye pas juste le 9 000 $. C'est pas juste des droits de scolarité, on paye la formation au complet. Un étudiant ontarien qui vient au Québec puis qui veut aller en médecine, on va financer, nous, le programme de médecine. On va financer le programme de psycho. On va financer le programme de droit. Donc, pour l'État québécois, ça coûte très cher de financer ces études-là. Alors, pourquoi est-ce que le gouvernement québécois subventionnerait de manière indéfinie ces étudiants-là, alors qu'ailleurs, il n'y a aucun gouvernement ailleurs au pays qui finance à cette même hauteur-là? Là.
C'est pour ça que je posais la question au début. Est-ce que c'est une question d'argent ou une question de français? La presse parlait d'un cas en fin de semaine d'une chercheuse iranienne qui est ici à Montréal, qui est quand même, appelons ça, une chercheuse de pointe qui serait utile, qui a de la misère à combiner des cours de français pendant qu'elle poursuit ses études de haut niveau. On va la perdre au profit de l'Ontario. Il n'y a pas moyen de trouver des aménagements quand on a payé une formation, quand quelqu'un étudie ici, qui veut rester ici, qui parle peut-être pas le français qu'on souhaiterait, là, mais au moins, comme disait son tuteur, là, l'anglais, c'est la langue de la recherche, puis c'est la langue internationale. Pourquoi est-ce qu'on la perdrait au profit de l'Ontario alors qu'on vient de payer pour ses études?
C'est la raison pour laquelle on touche pas au cycle supérieur. Maintenant, dans ce cas précis-là, c'est vrai qu'on peut pas se permettre de perdre des talents. Et dans la mesure de ma collègue à l'immigration, Madame Fréchette, il y a aussi des mesures d'exception pour des talents d'exception. Est-ce que cette femme-là pourrait rentrer dans cette rubrique-là de talents d'exception? C'est à voir, on regarde ça. Mais c'est clair qu'on peut pas se passer de ces talents-là, surtout qu'on les forme, comme vous le dites, on les forme.
Ben, c'est parce que souvent, ces cas-là se retrouvent sur la place publique, puis c'est comme ça que, malheureusement, ça met de la pression peut-être sur la machine, puis qu'on est capable de les régler. Mais il y a quelque chose d'un peu, comment je vous dirais, un peu frustrant pour les Québécois de se dire, là, on accueille des gens, tant mieux. Ils viennent ici, ils s'installent, ils créent leur vie au Québec. Puis là, arrivent, ils parlent-tu assez français, pas français, des Français de France à qui on fait passer des tests pour savoir s'ils parlent français. C'est encore vrai aujourd'hui. Il y a quelque chose d'hallucinant dans ça, là, non?
Ben, les Français et les Belges, écoutez, font partie d'ententes internationales, sont à des tarifs déjà privilégiés, font partie, évidemment, des communautés puis des populations.
Mais on mesure leur connaissance du français.
Ben, on mesure leur connaissance du français. Ce sont des Français à la base, des francophones à la base. Puis c'est pour ça que je vous dis que ces gens-là vont continuer à pouvoir aller dans des universités anglophones. Mon but, c'est pas cette mesure-là. Elle est pas contre les anglophones. C'est vraiment une mesure où je veux être capable d'accompagner de manière plus efficace le réseau
vous
francophone.
Vous voulez plus d'étudiants à l'Université de Montréal?
Ben, on veut plus d'étudiants et d'effectifs dans le réseau francophone,
oui, mais
dans son ensemble.
Je prends l'exemple. Il se paraît qu'il y a une augmentation aussi à Sherbrooke importante de l'Université Laval.
Il y a déjà des augmentations substantielles en termes d'effectifs en raison des exemptions qu'on a pu accorder au cours des derniers mois.
Et comme
mois,
il y a moins d'enfants de souche, comme on dit, au Québec, ça fait moins de candidats pour l'université, puis que je voyais quoi, la moitié des inscrits en sciences politiques, ce sont des étudiants étrangers. Ça passe par des étudiants qui viennent d'ailleurs. Sinon, on va avoir un autre type de problème.
Mais les étudiants internationaux vont pouvoir continuer à venir ici. On va prélever un montant forfaitaire, comme c'était le cas à l'époque. Avant la déréglementation, ça existait déjà.
Okay.
Donc,
ça
je pense
commence
que les établissements... En septembre 2024. En septembre 2024.
Dans un an, à peu près.
Bon, on leur donne le temps, justement. Ils sont en campagne de recrutement. Donc, c'est clair que... En ce moment, c'est la campagne de recrutement. Cet automne 2023, c'est comme ça que ça fonctionne. Ils recrutent évidemment tous les étudiants. C'est pour ça qu'on voulait aussi mettre en place cette politique-là pour leur donner le temps de pouvoir s'ajuster pour 2024.
Merci d'être venu ce matin.
Merci à vous, M. Arcan.
Pascal Léry, la ministre de l'Enseignement supérieur.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan.
La guerre entre le Hamas et Israël. Faisons le point sur les éléments importants ce matin. Tout d'abord, depuis l'ultimatum lancé par Israël, environ 1 million de Palestiniens se sont déplacés. Je rappelle que la population est autour de 2,1-2,2 millions, donc la moitié ont bougé. La plupart ont des craintes de jamais retourner chez eux. Et on voit que l'ultimatum s'est transformé en bataille du temps, c'est-à-dire bouger, on va modérer nos attaques. Mais entre-temps, on continue de mettre de la pression sur la frontière en déployant des troupes. Et on se demande justement à quel moment il y aura une offensive terrestre. Le premier ministre Netanyahou a dit qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu. La situation est aussi extrêmement préoccupante du côté du Liban avec le Hezbollah. Je rappelle que 5 Canadiens ont perdu la vie et qu'un des enjeux majeurs demeure pour les Palestiniens, la distribution d'eau, de nourriture et de médicaments. Plus tôt ce matin, j'ai parlé avec le colonel Olivier Rafovitz, qui est porte-parole francophone de l'armée israélienne. Et je lui demandais justement, quand on observe la présence des troupes le long de la frontière, est-ce que ça veut dire que l'offensive est imminente?
Ça veut dire que les forces de Tsahal mobilisées et renforcées sont prêtes à toute éventualité, à tout ordre donné par l'échelon politique le plus élevé et l'échelon militaire, ce qui inclut également des incursions et entrées dans la bande de Gaza contre le Hamas.
Donc ça dépend de l'ordre politique et ça peut survenir à tout moment?
Ça dépend toujours de l'ordre politique, puisque nous sommes une démocratie en guerre, et c'est l'échelon politique qui commande.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la situation entre le Hezbollah au Liban et les troupes de Tsahal? On parle d'une augmentation quand même de la tension, de la violence.
Vous avez tout à fait raison, il y a une tension qui augmente à la frontière libano-israélienne, avec de plus en plus d'incidents le long de la frontière, dont des tirs de mortiers, des tirs de missiles, des attaques au RPG, au missile anti-tank. Nous avons des blessés, nous avons des morts également. Donc tout cela réuni nous oblige à réagir et à répondre dans une réaction qui est pour nous une réaction obligatoire contre ceux qui nous tirent dessus. Ça peut être le Hezbollah, ça peut être le Hamas au Liban. Mais pour l'instant, nous pouvons voir qu'il y a une escalade et espérons qu'elle soit contrôlée. Mais puis, si par contre le Hezbollah a la mauvaise intention, la mauvaise idée d'attaquer Israël, eh bien là, la réaction sera gigantesque.
On a beaucoup parlé de l'ultimatum ou de l'ordre de déplacement qui a été lancé vendredi. Êtes-vous en mesure de nous dire combien de gens du nord de Gaza sont partis vers le sud?
D'abord, c'est pas le Gaza nord, c'est la ville de Gaza. C'est Gaza City. Les gens ne comprennent pas, ne connaissent pas. Il y a dans la bande de Gaza, ils disent que c'est plus Gaza. Au nord de la bande de Gaza, il y a à peu près 1 million d'habitants. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, à peu près 650 000, voire presque 700 000, malgré que le Hamas les a empêchés, les a bloqués, sont passés de la zone nord de la ville à la zone sud.
Et est-ce que vous attendez à l'ensemble, que l'opération soit complétée dans son ensemble avant de procéder à des opérations militaires plus importantes?
C'est ce que nous voulons, et je pense que ça va se faire.
Donc, ils ont encore du temps.
Ils le font, ils sont en train de le faire, là.
Est-ce que c'est vrai la rumeur voulant qu'il y ait certains corridors humanitaires qui s'ouvrent, notamment du côté de l'Égypte? On parle d'un corridor pour acheminer de la nourriture, de l'eau, des médicaments.
Ce qui a trait à l'Égypte dépend de l'Égypte, donc vous devriez parler avec l'Égypte.
Est-ce que d'autres corridors qui existent permettant l'envoi de médicaments, de nourriture et d'eau?
À l'heure où nous parlons, je ne connais pas de corridor dont vous parlez. Et à l'heure où nous parlons, le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, mène une politique pour utiliser la population civile comme bouclier humain. Et la politique menée par le Hamas pour, entre guillemets, promouvoir une image de crise humanitaire, c'est en fait le but recherché par le Hamas pour éviter les frappes israéliennes.
Mais au-delà du Hamas, il y a des organismes internationaux qui disent ne plus avoir de médicaments pour soigner les gens dans les hôpitaux, de ne plus avoir accès à de l'eau, de ne pas avoir accès à de la nourriture. Je ne parle pas du Hamas, là. Je parle de certains pays, organismes qui s'expriment.
Eau et nourriture existent, heureusement d'ailleurs. Il y a des limitations dans des choses qui peuvent aider militairement le Hamas, comme le carburant et l'électricité. Je rappelle que les missiles lancés par le Hamas vers Israël utilisent l'électricité et du carburant. Donc on ne va pas donner au Hamas qui attaque Israël et qui a tué, je le rappelle, parce que vous oubliez un peu dans votre question que on est quand même le pays qui a été attaqué, et pas celui qui attaque. On a quand même eu plus de 1400 morts, la majorité étant des civils, dans les massacres les plus terrifiants que l'histoire d'Israël moderne puisse connaître. Si je voulais mettre à l'échelle, par exemple, française, le nombre de morts que nous avons eu, ce serait comme si la France avait eu aujourd'hui plus de 10 ou 11 000 morts. Et si c'était à l'échelle américaine, des États-Unis d'Amérique, qui sont 20 fois plus grands que nous en population, ça serait l'équivalent de presque de 30 000 ou 40 000 morts. Donc, c'est ça qui a touché Israël. C'est pour ça qu'Israël se défend, Israël attaque. Alors, la peine pour les gens sur Gaza, je peux comprendre, mais je voudrais aussi un peu entendre de l'émotion par rapport à ce qui se passe chez nous. Or, je n'entends pas.
Je pense que les gens se sont exprimés beaucoup, en tout cas ici au Québec, pour dénoncer les actes barbares commis par le Hamas, mais en même temps, il y a une préoccupation pour des civils, pour des femmes, pour des enfants qui se retrouvent comme pris en otage dans une guerre entre une faction armée et un pays.
C'est pas une faction armée, c'est ça votre problème. Pas par vous. C'est le problème des gens qui ne comprennent pas la situation. C'est pas une faction armée. C'est pas qu'il y a un gouvernement démocratique avec à l'intérieur de ce pays un groupe armé. Tout le régime de Gaza, c'est le Hamas. L'armée, c'est le Hamas. L'administration civile, c'est le Hamas. Et si ce régime islamo-fasciste, peu l'équivalent de Daesh, continue à exister, eh bien, nous serons menacés, toujours. Les Gazaouis seront toujours en otage, et ça sera toujours horrible. Vous savez, ce matin, je suis allé à la morgue. Ils ont entreposé 1400 corps israéliens. Une des femmes qui était sur place, qui s'occupe de l'identification des corps, nous a dit que elle a reçu, avec les équipes, des morceaux carbonisés. Et avec les équipes médicales et d'identification, ils ont réussi à faire que, dans ces morceaux de carbonisés, il y avait deux bébés enlacés, l'un à côté de l'autre. Des familles entières ont été anéanties. Des femmes jeunes, mais aussi des femmes très âgées, ont été violées. Des femmes enceintes ont été éventrées. Et on a tué le bébé, le fœtus et la mère. C'est de ça dont je vous parle. Maintenant, imaginez-vous, vous, au Canada, au Québec, faire face à une telle horreur. La population n'est pas en émoi, la population est en choc. Nous sommes en Israël aujourd'hui en choc. Et les morts que nous avons connus, les drames et le massacre volontaire contre des civils, sont aujourd'hui oubliés au bénéfice de gens qui sont eux-mêmes les tueurs et les assassins et qui vendent à la presse internationale une situation qui n'a rien à voir avec la nôtre.
Voilà, c'était le colonel Olivier Rafovitz, qui est porte-parole francophone de l'armée israélienne. Ayons un autre point de vue ce matin, un autre regard. Depuis les derniers jours, on a vu plusieurs organismes internationaux s'inquiéter de la situation humanitaire dans la bande de Gaza, c'est-à-dire le manque d'eau, le manque de nourriture, des hôpitaux qui n'arrivent plus à soigner leurs patients, les mouvements de population, les bombardements qui continuent. Léo Kantz est avec nous, il est chef de mission pour la Palestine chez Médecins sans frontières, il est à Jérusalem. Monsieur Kantz, bonjour.
Bonjour.
D'abord, quel portrait vous pouvez nous faire de la situation sur le territoire de Gaza en termes humanitaires ce matin?
C'est un portrait, je dirais presque apocalyptique. C'est le mot que utilisent beaucoup de nos collègues lorsqu'ils décrivent la situation. Il faut comprendre que la bande de Gaza a été complètement coupée du monde. Ça fait depuis 9 jours maintenant qu'il n'y a plus aucune électricité dans la bande de Gaza. Donc les habitants vivent dans le noir, ils n'ont plus accès aux informations. Seulement certains générateurs fonctionnent, c'est ce qui leur permet de charger leur téléphone. Donc l'eau, les gens ne trouvent plus d'eau. Hier, on avait une équipe qui a passé plus de 2 heures de temps pour récupérer seulement 10 bouteilles d'eau de 1,5 litre. C'est vous dire un petit peu le niveau de ce qui manque actuellement dans la bande de Gaza.
Bon, il y a eu des rumeurs qui voulaient ce matin qu'un corridor soit ouvert avec l'Égypte, entre autres, pour être capable de livrer ces produits de première nécessité. Visiblement, c'est pas encore le cas.
Non, ce n'est pas encore le cas. La situation est dramatique. Nous-mêmes, nous avons fait la dernière donation de nos stocks de médicaments à l'hôpital de Shifa ce matin dans la ville de Gaza. Mais c'est la dernière donation. Nos stocks, maintenant, sont à zéro. Je parlais ce matin avec un docteur de l'hôpital de Shifa. Il me disait que la situation était terrible à l'intérieur. Ils sont quasiment en rupture de drogue sédatif. Donc les opérations commencent à se faire avec des médicaments qui sont moins sédatifs. Donc les patients ont beaucoup plus de peine, de douleur. Je vous donne un exemple. Dans le bloc opératoire dans lequel on fonctionnait, normalement il y a 6 à 7 personnes médicales. Là on fait des opérations avec 2 personnes seulement. Donc les soins sont en train de se dégrader. L'hôpital n'a plus qu'un jour de capacité pour faire marcher le générateur et dans un jour le générateur risque de s'arrêter. Donc c'est totalement inacceptable de punir une population de manière collective de cette manière-là. Il faut laisser l'accès aux soins à la population. C'est inacceptable que la population ne puisse plus avoir accès aux soins, ne puisse plus avoir accès aux biens de première nécessité. On parle d'eau, on parle de nourriture. On a des équipes qui ne prennent qu'un repas par jour actuellement. Donc il n'y a aucune justification à cela. Et nous, vraiment, nous tirons la sonnette d'alarme parce que le fait qu'il n'y ait plus d'eau potable suffisante en ce moment à Gaza fait que les gens commencent à s'alimenter avec de l'eau qui n'est plus potable. Donc ça veut dire que derrière, il peut y avoir des graves problèmes de santé publique. Et donc c'est vraiment quelque chose que les biens de première nécessité doivent rentrer dans la bande de Gaza au plus vite.
On évalue qu'environ 1 million, 1 100 000 personnes se sont déplacées depuis le début de ce conflit. Quel est l'impact sur la partie du territoire qui est comme assiégée depuis une semaine maintenant?
C'est un impact qui est terrible. Il faut bien se comprendre que lorsque l'armée israélienne demande à la ville de Gaza City, la ville de Gaza, d'évacuer, lorsqu'ils demandent à 1 million de personnes d'évacuer, ils incluent dans cet ordre d'évacuation les personnels soignants. Ils incluent dans cet ordre d'évacuation les patients. Donc on est en train de demander à des hôpitaux qui sont complètement débordés, tous les lits sont pris, les blocs chirurgicaux tournent à plein régime, on demande à ces hôpitaux d'évacuer ces patients. Donc premièrement, ils n'en ont pas les capacités, et deuxièmement, il n'y a aucun hôpital dans le sud qui est capable de recevoir ces patients-là. Donc en fait, cette ordre d'évacuation, s'il était suivi, c'est en réalité une condamnation à mort de tous les patients qui sont actuellement dans les soins intensifs dans les hôpitaux. J'entendais parler de morgue tout à l'heure. Il faut savoir que tous les sacs mortuaires de petite taille maintenant sont terminés à l'hôpital de Shifa dans lequel nous travaillons. Donc tous les sacs pour enfants, les sacs mortuaires de petite taille sont les sacs pour les enfants. Il n'y en a plus. Ça donne une idée du nombre d'enfants qui a été tué dans ces bombardements. Donc voilà, tout manque. On est une catastrophe humanitaire en train de se dérouler sous nos yeux. Et je ne vois pas pourquoi il n'y a aucune raison à ne pas pouvoir laisser les biens de première nécessité accéder dans la bande de Gaza.
C'est important.
Nous demandons vraiment à cet accès aux soins et à son rétablissement le plus rapide.
C'est important de vous entendre ce matin parce que de voir les civils des deux côtés, les civils qui ont été attaqués, les civils qui ont été enlevés en Israël, ces enfants qui sont privés de nourriture, qui sont menacés, qui sont tués, quand les civils deviennent des outils dans un conflit, on se demande comment faire pour empêcher ça, comment faire pour établir, disons, un minimum de décence, un minimum de qualité de vie pour les gens qui sont là-bas.
Oui, vous savez, de toutes les façons, un massacre n'en justifie pas un autre. Actuellement, ce qui est en train de se passer, nous sommes présents dans la bande de Gaza et ce que nous sommes en train de voir se dérouler sous nos yeux, c'est l'affaiblissement petit à petit d'une population en diminuant les quantités d'eau, en diminuant la quantité de nourriture disponible, en diminuant la quantité des médicaments disponibles. Il y a déjà 3 hôpitaux qui ont dû évacuer. Donc les hôpitaux ont dû fermer leurs portes pour suivre l'ordre d'évacuation du gouvernement israélien. C'est 3 hôpitaux qui ne soigneront plus de patients. Donc c'est des patients qui vont aller sur les autres hôpitaux qui sont déjà débordés. Donc c'est une situation qui est intenable. La situation est en train de se dégrader très vite. Si le rétablissement de l'accès à l'eau n'est pas rétabli, on peut très très vite voir des gens qui vont soit se déshydrater très rapidement, du coup en 1 jour ou 2 jours, la déshydratation ça entraîne la mort. Soit si ils continuent à boire de l'eau qui est de mauvaise qualité, on commence à développer des maladies avec des parasites et des maladies hydriques. Donc la situation est catastrophique et devient de plus en plus catastrophique. Il y a des gens aussi il y a beaucoup de corps qui n'ont pas été ramassés parce qu'il manque de pétrole pour faire d'essence pour faire marcher les véhicules. Donc il y a des corps qui n'ont pas encore été ramassés dans tous les immeubles qui ont été bombardés. Et même un collègue avec qui nous parlions hier après-midi au téléphone, il disait que dans certains quartiers on sent déjà l'odeur des cadavres parce que les corps ne sont pas ramassés.
Monsieur Kanz, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Léo Kanz est chef de la mission pour la Palestine chez Médecins sans frontières. Il est basé à Jérusalem.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
Ce matin, nous allons vous raconter l'histoire d'une famille de réfugiés en provenance de l'Angola. Ils sont arrivés au Canada fin 2018 avec leurs 6 enfants, donc des enfants âgés de 3 à 15 ans. Ils sont passés donc par le fameux chemin Roxham. Et depuis ce temps, ils se sont installés au Québec. Et ils ont trouvé de l'emploi, ils ont fréquenté l'école et ils ont bénéficié de l'aide d'un couple de Québécois qui, depuis le début, les accompagne pour les aider à faire face à la bureaucratie d'une part, mais en même temps à s'intégrer à la société québécoise. Tout allait très bien, ils ont obtenu leur résidence permanente, mais on constate dans les derniers mois que le renouvellement du permis de travail tarde, que la procédure bureaucratique à Immigration Canada fait en sorte que monsieur ne peut pas travailler, que le fils ne pourra pas travailler, que la mère est sur le point de perdre son permis de travail. Pourtant, là, il n'y a pas d'enjeu, ce sont des résidents permanents. François Rainville est avec nous, c'est un entrepreneur qui, depuis le début, est en lien avec cette famille. Monsieur Rainville, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
D'abord, racontez-nous comment vous avez connu la famille Petrucha là, quand ils sont arrivés là, fin 2018.
Oui. Écoutez, on a été mis en contact avec la famille Petrucha à travers le collectif Bienvenue, qui est un organisme à Montréal qui aide les réfugiés qui arrivent ici, qui nous demandait en fait de les aider à se meubler ou quand ils auraient trouvé un appartement. Donc, on a fait appel à notre groupe d'amis, à la communauté, tout le monde était très généreux, puis on a pu rapidement, dans 48 heures, meubler l'appartement où ils ont où se sont installés à Longueuil. Mais quand on les a rencontrés, c'était un peu difficile de dire qu'on aurait arrêté à ce moment-là parce qu'ils avaient une belle famille, 6 enfants extraordinaires, et on a décidé de continuer à les aider.
Quand vous dites on a décidé de continuer à les aider, comment cette relation s'est développée au fil des années?
Écoutez, avec ma conjointe qui a été celle qui a vraiment mis tout son cœur là-dedans avec nous, il y avait beaucoup de choses à faire, hein, vous savez, 6 enfants, garderie, maternelle, primaire, secondaire, banque alimentaire, trouver un emploi avec nos amis aussi, s'assurer qu'à chaque saison on puisse avoir des vêtements pour toute la famille, aider papa et maman à trouver un emploi. Donc c'était, vous savez, c'est ce que probablement plusieurs familles québécoises vivent, mais eux, ils l'ont vécu comme réfugiés, ce qui amenait un degré de difficulté plus important, puis aussi avec un nombre important, avec 6 enfants, c'était beaucoup de travail, puis c'était difficile à plusieurs égards de naviguer les dédales à tous les niveaux, là, que ce soit au niveau scolaire et gouvernemental.
Bon, là, il faut dire que malgré les obstacles, c'est un parcours qui est pas simple. Ils sont tous résidents permanents.
Ils ont été refusés. Ils ont été reçus par la commission des réfugiés. Ils ont été acceptés. Ils sont en attente de leur papier officiel de résidence permanente.
OK. Mais là, ils travaillent. Enfin, le père travaille, la mère travaille, ouais. Le plus vieux des enfants travaille aussi.
Et la plus vieille, l'aînée aussi, comme travail étudiant. Là, les deux plus vieux enfants sont maintenant au cégep. Je vais juste ajouter à ça. Ils sont arrivés ici et tout le monde parlait portugais et peut-être un petit peu anglais. Depuis un an plus tard, à travers le travail avec des classes d'immersion, tous les enfants parlent très bien français. Donc, ça leur a permis de trouver des emplois. Papa et maman, c'est un petit peu plus difficile d'apprendre le français à ce stade-ci-là. Mais ils arrivent à travailler.
Puis, je pense que le plus vieux va poursuivre des études supérieures, là.
Ben, en fait, le plus vieux, la plus vieille, eux, ils sont arrivés ici tellement motivés, tellement studieux. Le plus vieux veut devenir ingénieur. La plus vieille, qui est à sa première année au cégep, veut devenir avocate. Et les autres suivent dans le sillon, mais c'est une famille studieuse, très. Il y a beaucoup de volonté, un objectif de s'établir ici puis de participer et puis d'avoir une carrière.
OK. Racontez-nous l'enjeu des fameux permis de travail. Pourquoi ça a été si compliqué?
Écoutez, on en est au renouvellement du permis de travail au mois de mars passé. Ce que les gens d'Immigration au Canada disent, c'est qu'on peut pas faire une demande, contrairement au passeport, beaucoup d'avance. Donc, il faut faire une demande dans les deux semaines avant l'échéance. C'est ce qu'ils ont fait au mois de mars. Papa est le plus vieux. On était rendus, nous, on les côtoie souvent. Et puis, la semaine passée, au dîner d'Action de grâce, on était avec eux. Et papa nous dit, je peux plus travailler depuis deux semaines parce que j'ai pas eu le renouvellement de mon permis de travail. Mon employeur veut plus me prendre parce que, en fait, son problème aussi, c'est un petit peu la maison des fous, des fois. Quand on fait un renouvellement, on peut continuer à travailler pendant qu'on est en mode renouvellement. Par contre, dans le cas des réfugiés reçus, le numéro d'assurance sociale vient à échéance en même temps que le permis de travail. Et là, il n'avait plus de permis de numéro d'assurance sociale parce qu'on ne veut pas renouveler son numéro d'assurance sociale avant qu'il ait le renouvellement de son permis de travail, ce qui faisait qu'aucun employeur veut lui donner un emploi actuellement, parce qu'il n'a pas de numéro d'assurance sociale. Ben ça, ce que ça mène, c'est que tu travailles au noir, puis il faut essayer de trouver des endroits où ils vont le payer sous la table parce qu'il n'aura pas de numéro d'assurance sociale renouvelé tant qu'il n'y avait pas son renouvellement de permis de travail.
Ça, c'est pour le père. Le fils aîné aussi a dû laisser son travail d'étudiant.
Absolument. Il y avait un traitement qui semble différent. On a essayé de comprendre pourquoi, mais lui, ils lui ont donné deux mois de grâce. Donc, lui, il avait jusqu'au 16 juillet pour obtenir son renouvellement. S'il l'avait pas, il ne pouvait plus travailler.
Pour ce qui est de l'aînée des filles, là, le permis venait à échéance. Là.
Il va venir à échéance en décembre. Donc, on peut même pas le demander tout de suite pour s'assurer de l'avoir en décembre. Il faut attendre à peu près deux semaines avant parce que ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a tellement de dossiers à traiter qu'ils n'acceptent pas de demande de renouvellement avant deux semaines avant.
Mais ce qui n'a pas de bon sens là, dans cette maison des fous, c'est que ça veut dire que la famille perd l'ensemble de ses revenus, sauf le revenu de la mère là, actuellement.
Oui, qui fait 20 quelques heures chez Walmart actuellement. Effectivement, c'est ce qui se passe actuellement. Donc, son prix à vivre, son prix à vivre avec les allocations familiales et le salaire de maman. Et la problématique, c'est qu'il n'y a pas de chômage parce que le chômage dit qu'il ne peut pas travailler parce qu'il n'y a pas son permis de travail, donc n'a pas le droit à l'assurance chômage. Donc, c'est une roue. En fait, il y a plusieurs ressources disponibles, mais elles ne sont pas bien interconnectées, là. C'est difficile.
OK. On a reçu un courriel d'Immigration Canada parce qu'on a fait les démarches. On a demandé la permission d'avoir accès au dossier. D'abord, ils se disent désolés pour le délai, mais en même temps, confirment que les demandes pour le père et le fils sont approuvées, que les permis seront acheminés dans les prochains jours. Donc, et là, ils se défendent en disant que les délais de traitement... ça s'explique par le contexte du premier arrivé, premier servi. Mais là, ça fait des mois que votre ami fait ses demandes.
Effectivement, les ont fait au mois de mars. Écoutez, c'est un petit peu n'est rien comprendre. Premièrement, merci beaucoup parce qu'effectivement, la communication que votre équipe a eue avec Immigration Canada semble avoir activé des choses. On vous remercie, mais en même temps, c'est malheureux pour tous ceux, pour tous les autres qui sont peut-être dans la même situation que la famille qu'on aide actuellement. Mais effectivement, c'était un dénouement heureux vendredi passé. Là, on attend juste d'avoir la documentation officielle.
Et vous avez raison. Je voulais vous parler ce matin parce que ça illustre ce que vivent malheureusement bien des familles qui sont aux prises avec les délais puis la bureaucratie. Puis l'idée, c'est pas de mettre en lumière ce qu'on a fait. On a fait ce qu'on avait à faire, puis ça donne un résultat, puis tant mieux. Mais en même temps, c'est pas normal que ça passe par une émission de radio. C'est pas normal que la députée du coin ait pas le temps de rencontrer les personnes impliquées, puis que ça prend une intervention journalistique pour faire avancer des dossiers. C'est illogique. Puis je comprends des gens qui vivent ça actuellement puis qui sont furieux parce qu'eux, ça traîne malheureusement dans les tiroirs, là.
Absolument, c'est malheureux. Ils veulent travailler, ils arrivent ici avec les meilleures intentions de se bâtir une vie meilleure. Ils travaillent, les enfants ont appris, comme je vous dis, ils ont appris le français en un an. Ils sont à l'école standard, c'est-à-dire qu'ils sont plus dans les classes d'immersion. Tout le monde veut travailler. C'est malheureux qu'on leur mette les bâtons dans les roues. Il y a beaucoup de ressources au Québec, c'est ce que j'ai découvert. Avec ma conjointe, les gens sont généreux, les professeurs qu'ils ont eus étaient extraordinaires, les gens aux banques alimentaires, les ressources sont toutes là, mais ils sont ralentis et on les empêche d'aller de l'avant pour des questions de bureaucratie gouvernementale. C'est ce qui est malheureux actuellement.
Et heureusement pour cette famille, ils ont pu compter sur vous et votre conjointe parce que vous les avez aidés dès leur arrivée à naviguer à travers le Québec dans ce qu'il y a de meilleur puis ce qu'il y a de pire des fois aussi.
Ouais, merci.
Merci, M. Rainville. Bonne journée à vous.
Ça fait plaisir. Bonne journée.
François Rainville, c'est un entrepreneur qui, depuis leur arrivée au Québec, aide avec sa conjointe la famille Petroucha, 2 adultes, 6 enfants, passés par le chemin Roxham, en provenance, au départ de l'Angola, et viennent au Québec pour se bâtir une vie, ce qu'ils ont fait. Puis je vous le dis, c'est pas normal que ça passe par nous, là. Tant mieux si ça a donné un résultat, puis qu'ils vont recevoir leur permis. Mais de couper les revenus comme ça, brutalement, à une famille qui est intégrée, dont les enfants parlent français, tu sais, ça va bien. Non. Là, faut que tu joues dans la bureaucratie, puis le numéro d'assurance sociale, ben il est plus bon en même temps que le permis, puis bon. C'est ça, malheureusement, la bureaucratie. Maintenant, vous avez vu peut-être ce dossier concernant la conduite des Québécois en voiture, hein, bref, sur les routes. Les bilans sont de plus en plus lourds. Puis, veut pas, là, quand on compare avec ailleurs, la question se pose. Est-ce que nous sommes plus irresponsables au volant depuis la fin de la pandémie? Est-ce qu'on est des mauvais conducteurs à ce point? Puis pas juste les conducteurs, là, ça peut inclure les piétons, les cyclistes. Ce qui est clair, en tout cas, c'est que le nombre d'accidents augmente puis que les Québécois ont l'air à s'en foutre pas mal. Marco Harrison est avec nous. C'est le directeur de la Fondation du CA Québec et porte-parole en matière de sécurité routière. Monsieur Harrison, bonjour.
Bon matin, Monsieur Arcand.
On est-tu plus mauvais conducteur qu'ailleurs?
Est-ce qu'on dit plus mauvais conducteur ou la pandémie a fait en sorte qu'on a oublié des règles de base pour se déplacer sur le réseau routier? Puis même pas, on parle même pas de réglementation, là. On parle de courtoisie au volant, de partage de la route, de respect des autres. C'est des valeurs humaines, là. C'est même pas les lois et les règlements, là.
Puis, OK, mais la pandémie...
Si on ajoute à ça respecter les règles, ben là, on fait en sorte que le bilan s'alourdit au niveau des décès depuis 2019 même. C'est en augmentation.
Oui, mais j'allais vous dire que la pandémie a passé ailleurs aussi. Là, est-ce qu'on a observé ailleurs au Canada, ailleurs aux États-Unis, ailleurs en Europe, autant de délinquance au volant qu'on observe ici?
Ben écoutez, notre grand frère, là, qui est la Fondation pour la sécurité routière du AAA, a fait une étude, justement, durant la pandémie, puis ça a révélé que les conducteurs prudents pendant la pandémie ont déserté les routes, puis ça a fait en sorte que les conducteurs qui adoptaient des comportements plus à risque, c'est ceux-là qui sont demeurés. quand on regarde, on s'attendait durant la pandémie. Écoutez, il y a eu des périodes de confinement à la maison. Il y avait beaucoup moins de véhicules sur les routes. On s'attendait à ce que le bilan routier s'améliore au niveau des décès. Ça n'a pas été le cas. Il y a eu une augmentation du nombre de décès pendant ces deux années-là.
Mais il y a deux,
par rapport aux années précédentes. Ouais.
Il y a deux chiffres qui ont attiré mon attention là, dans ce que j'ai lu dans la presse en fin de semaine. Là. Vous me corrigerez, il y a 3300 collisions causant des blessures par million de personnes au Québec contre 1680 par million en Ontario. Et ouais, ça, c'est vrai
pour... au double.
Comment vous expliquez ça?
Année après année après année, l'Ontario a toujours le meilleur bilan routier au Canada. Puis là, quand on regarde au prorata du nombre d'habitants, ils ont à peu près le double d'habitants en Ontario par rapport à nous au Québec. Ils sont meilleurs. Puis quand on se compare à d'autres provinces qui sont à peu près au niveau du Québec, on regarde souvent la Colombie-Britannique, l'Alberta, ben là, c'est des chiffres comparables un petit peu plus au Québec. Hein, la Colombie-Britannique, on parle de 3400 puis 3700 en Alberta par million d'habitants. L'Ontario a une recette qui est meilleure que la nôtre. On devrait probablement s'en inspirer à certains égards, notamment au niveau de la limite d'alcool administrative, le 0.05, parce qu'on est encore la seule province au Canada qui n'a pas de règles par rapport à ça. Et Mme Guilbeault l'a clairement indiqué là, lorsqu'elle a sorti son plan d'action en sécurité routière. C'est pas quelque chose qui est au programme pour le gouvernement de la CAQ actuellement.
OK. L'autre chiffre qui est assez frappant, là, c'est que un conducteur québécois commet en moyenne 700 infractions, là. Pas toujours des affaires bien graves, là, mais 700 infractions au Code de la sécurité routière par constat d'infraction reçue. Autrement dit, nous avons la conviction de ne jamais se faire pogner.
Ouais, ben, oui, puis vous l'avez dit, hein, c'est tout type d'infraction.
Oui.
Puis, prenez un trajet de 1 km pour monsieur, madame, tout le monde, là, et calculez le nombre d'infractions commises, là, puis là, on fait tout, là. Pas regarder l'angle mort, de pas signaler son intention, de suivre de trop près, de dépasser la limite de vitesse. Sur 1 km, vous allez en avoir beaucoup. Ça paraît, une aux 700, là, ça paraît vraiment extraordinaire, mais quand on a juste nous-mêmes à s'observer pendant qu'on conduit, là, puis vous allez dire, ben mon Dieu, il y a donc plein de choses que je fais qui sont contre les règles du Code de sécurité routière, mais les gens le font de manière, c'est des automatismes. T'sais, on parle souvent de la vitesse qui est une des premières causes de décès au Québec, puis on en parle même dans le dossier de la presse. Il y a un genre de tolérance généralisée au Québec par rapport aux limites de vitesse. Je vais vous poser la question, M. Arquin, vous faites Québec-Montréal sur l'autoroute 20, à quelle vitesse vous êtes sûr de ne pas vous faire intercepter, même si la limite est 100, vous allez me dire, tout le monde me dit entre 116 et 118, je vais être correct.
Mmh.
Mais ça, c'est généralisé, là. L'application de la limite de vitesse, la loi, est pas... Moi, je pense qu'on doit resserrer les mesures par rapport à ça. Mais de toute façon générale, dans la population, c'est accepté socialement qu'on roule à 118 quand la limite est 100.
Mais il y a aussi, sur la vitesse, c'est une chose, là, puis le comportement, disons, agressif au volant. Mais quand on observe aussi les gens qui vivent dans leur bulle, c'est-à-dire que des gens qui sont dans la voie de gauche qui roulent à 80, des gens qui sont dans les rues des villes, Montréal, par exemple, qui stationnent en double, qui partent de la bande de trottoir et regardent même pas s'il y a une auto qui roule dans cette direction-là, qui s'installe à un arrêt d'autobus pour jaser. J'en vois tous les jours. C'est pas juste, c'est comme s'il y a des gens vraiment qui ont aucun souci de l'environnement. J'ai le droit, ouais, mais le faire.
On revient au partage de la route. Faut partager la route entre les divers types d'usagers. Puis aujourd'hui, en 2023, vous comme moi, puis bien des gens de la population, on est des multi-usagers, multi-types. Moi, à certains moments donné, je suis piéton. À un autre moment donné, je vais être cycliste. À un autre moment donné, je vais être automobiliste. Puis ça, là, ça devrait faire en sorte qu'on est plus attentif puis plus éclairé sur la réalité des autres. Puis ça nous permettrait de mieux les respecter. Puis là, je parle de tout le monde. Hein. On revient souvent à l'automobilisme, et c'est certain. prenez 4-5 000 livres d'acier puis de verre, puis quand c'est lancé sur la route, puis si ça frappe un piéton ou un cycliste, évidemment que celui ou celle qui n'a pas de chance, c'est l'usager vulnérable. Mais l'usager vulnérable aussi a des règles à respecter, puis il se doit aussi de les respecter, puis ça, ça fait partie du partage de la route, ça fait partie du respect des autres. Puis si tout le monde faisait un petit peu plus attention, on améliorerait le bilan.
Merci.
Malheureusement, on le voit.
Ah ben non, mais
Montréal, j'ai fait partie du comité piéton qui a émis un rapport en 2019. Puis Montréal, c'était la région où il y avait le plus de piétons impliqués dans des collisions. Puis l'autre chose qui ressortait beaucoup, c'est qu'il y a une collision sur 5 qui implique un véhicule lourd. Puis ça aussi, il faut travailler là-dessus. Les gens sont pas conscients de tous les angles morts qu'il y a autour d'un camion. Puis la façon dont les véhicules sont bâtis font en sorte qu'il y en a beaucoup. Puis le conducteur voit pas partout en même temps. Et les gens, le conducteur, mais aussi les piétons et les cyclistes doivent être au fait que c'est dans quand ils sont dans ces angles morts-là, ils ne sont pas vus par le conducteur.
Parfait. Merci, M. Harrison. Bonne journée.
Plaisir,
au revoir. Marco Harrison est le directeur de la Fondation du CA Québec et porte-parole en matière de sécurité routière.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.